Toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101,4 MHz. Nous continuons cette émission magazine. Nous venons d'écouter de la musique des îles Salomon. Nous allons continuer notre magazine en parlant toujours de quelques bouquins. Cette fois sur le thème « Femmes et politique ». En guise d'introduction, je voudrais juste vous lire deux ou trois petits passages d'un article qui a paru dans une revue qui s'appelle « Change international ». C'est une toute nouvelle revue, toute belle et toute grande, sur un papier très épais, que vous pouvez acheter au kiosque du boulevard 25 boulevard du Pont d'Arve à Genève. Et bien, dans cette revue, on trouve un article écrit par un collectif italien, un article intitulé « Plus femmes comme ». Et dans cet article, un collectif de femmes analyse les rapports qu'elles ont avec la politique et avec Le monde et l'existence sociale. C'est un article que moi j'ai trouvé absolument passionnant. Alors pour vous donner envie de le lire, je vais vous en lire des tout petits extraits. Étrange existence sociale que la nôtre, d'êtres qui ne sont pas les hommes mais qui ne peuvent paraître en tant que femmes. Il y a un seul monde, habité par des femmes et par des hommes, des enfants, des animaux et d'autres choses, vivantes ou non. Et dans ce monde qui est unique, nous voulons vivre à l'aise. Dans cet article, elle développe la notion l'aise, d'aise. Nous, femmes, nous devons revendiquer d'être à l'aise au monde. Et l'article se termine ainsi. Articuler les émotions fait partie du parcours pour arriver à l'aise, à la fin de l'anxiété. L'aise est en effet la troisième chose, entre l'envie sauvage de vaincre et la soumission, entre les fantasmes de toute puissance et la faillite. L'aise, c'est avoir une relation entre ses propres émotions et la chose à faire ou à penser dans une situation donnée. Il ne s'agit pas d'une question psychologique. La recherche de l'aise est une pratique politique qui continue à dire « Le travail pour masculiniser notre esprit et notre émotion est opprimant et de plus inutile. » Qui continue à dire « nous voulons traduire une expérience et un désir de femme dans une société qui fait la sourde oreille. » Et changer les choses, qui continue à dire « L'aise est le plus matériel de nos besoins avec les autres besoins matériels, et la lutte pour l'aise est subversive dans un monde où le désir est pétrifié. Cette volonté d'être au monde avec aise remet les choses en rapport vivant avec un désir, les remet dans une perspective qui nous aide à les comprendre et, pour autant que ce soit nécessaire, à les changer. » Voilà, je pense que nous avons toutes vécu notre manque d'aise lorsque nous nous affrontons au monde du travail, au monde syndical, au monde des organisations et des groupes politiques. Alors à ce sujet, il y a eu un collectif de femmes en France qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est terrible quand on y pense », un titre très dramatique pour relater une expérience qui a dû être assez dramatique. Ce sont des femmes qui ont participé à des groupes politiques de l'extrême gauche en France dans les années 70 et qui en sont sorties avec beaucoup de souffrance et beaucoup de débats entre elles. Elles en ont tiré un livre où elles racontent leur parcours et tout le cheminement qu'elles ont dû faire lorsqu'elles étaient à l'intérieur de ces groupes politiques comme des groupes donc de tendance plutôt trotskiste, d'autres groupes de tendance plutôt maoïste. D'autres femmes étaient très très engagées syndicalement et certaines faisaient partie de grands partis comme le PS. Et ces femmes se sont réunies et ont essayé de voir clair dans leur expérience et pourquoi elles ont subi un échec lorsqu'elles ont tenté de pratiquer le féminisme en restant à l'intérieur de ces groupes. Et pourquoi, autour de 1977, elles sont toutes sorties de ces groupes parce que l'air y était pour elles absolument irrespirable. Je ne vais pas vous lire un extrait de ce bouquin, mais une citation de Marguerite Duras qui se trouve tout à l'avant de ce bouquin, donc qui ouvre le livre. C'est une petite citation, ça s'appelle « La perte politique ». Pour beaucoup de gens, la véritable perte du sens politique, c'est rejoindre une formation de parti, subir sa règle, sa loi. Pour beaucoup de gens aussi, quand ils parlent d'apolitisme, ils parlent avant tout d'une perte ou d'un manque idéologique. Je ne sais pas ce que vous pensez. Pour moi, la perte politique, c'est avant tout la perte de soi, la perte de sa colère autant que de celle de sa douceur, la perte de sa haine, de sa faculté de haine, autant que celle de sa faculté d'aimer, la perte de son imprudence autant que de sa modération, la perte d'un excès autant que de la perte d'une mesure, la perte de la folie, de sa naïveté, la perte de son courage comme celle de sa lâcheté, que celle de son épouvante devant toute chose, autant que celle de sa confiance, la perte de ses pleurs comme celle de sa joie. C'est ce que je pense, moi. Marguerite Duras, dans « Les yeux verts » paru dans les cahiers du cinéma. Voilà, si vous avez passé par les groupes politiques, je pense que vous trouverez beaucoup d'intérêt à lire ce livre. Et toujours sur ce thème, femmes et politique, je veux encore vous signaler un livre qui a paru en Suisse, à Genève. C'est l'histoire de l'égalité des droits entre hommes et femmes, ou plus exactement l'histoire de cette initiative qui avait été lancée il y a un certain nombre d'années par des femmes en Suisse et donc qui a fini par aboutir par l'inscription de ce droit d'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution. Alors Martine Chaponnière-Grandjean a écrit un petit livre qui relate l'histoire de cette initiative. Ce petit livre est préfacé par Kurt Furgler. Ça va sûrement être très bien. Voilà, c'est tout pour les livres femmes et politiques.
Like his heart, although I reckon. drift apart. All love is gone. He stands alone. Won't come back. He cries and drinks it out. 'Cause when the sense is back, he'll need his shot. He's just high and low. And what's that there? Not much to know. 'Cause what's to share? He's old. I care. Life's so
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune. Je vais vous parler encore d'un bouquin. Mais vous venez d'entendre un disque qui s'appelle Cash Product. Voilà. Je vais vous parler d'un livre. Cette fois, c'est au sujet de l'anthropologie. C'est un livre écrit par une femme argentine, Marta Moya. Il n'a pas encore paru, mais il va paraître au début de l'année prochaine. Ce livre s'appelle « La saumone » et va paraître prochainement au Mercure de France. Dans le journal Femmes Suisses, il y a paru un petit interview de Marta Moya. Je vous en donne deux, trois petits extraits. Alors, tout d'abord, Femmes Suisses demande à Marta Moya pourquoi elle a choisi ce nom « La saumone ». Et Marta Moya explique qu'elle a cherché de traduire un nom de la première édition de son livre qui avait paru en espagnol. Elle a cherché un nom qui évoque quelque chose pour les femmes francophones. Et elle s'explique « La saumone est une poissonne qui n'oublie pas l'endroit où l'on est, que l'endroit où l'on est, naître, est l'endroit d'où l'on est. Séjournant en mer, les saumones regagnent les eaux douces pour pondre, retrouvant la rivière dont elles sont originaires par la perception de substances dissoutes à des doses infinitésimales. Cette mémoire et la démarche pour la régénérer expriment pour moi toute la symbolique d'une recherche-création de femme. Comment en êtes-vous venu à écrire ce livre? Trois raisons principalement m'ont poussé à le faire, et pour Marta Moya. Tout d'abord, j'avais besoin de faire une mise au point par rapport à l'anthropologie traditionnelle. J'ai essayé d'en repenser les concepts élémentaires pour construire un modèle qui soit pertinent pour les femmes. Si vous voulez, mon livre est à mi-chemin entre la création et la réaction, les deux premières motivations de cet ouvrage. Question, vous vous situez en effet dans une perspective résolument féministe et considérez les femmes comme agentes sociales. Marta Moya répond, nous les femmes, nous n'avons pas de modèle en anthropologie. Les unités sociales reconnues sont la bande, la chefferie, la tribu, jusqu'à ce qu'on arrive à l'État. Quant aux femmes, elles sont, dit-on, le tissu de la société. Je dirais plutôt qu'elles sont, pour rester dans la même métaphore, la chaîne ou le droit fil, l'invisible, l'indicible. Alors j'essaye de redonner cette place aux femmes. Pardon. Prenez par exemple la relation mère-enfant. La plupart des anthropologues s'accordent pour penser que le lien mère-enfant est le premier lien social. Mais, dès lors, ils essayent de dessiner un modèle de parenté, voilà que ce nœud, pourtant reconnu comme essentiel, disparaît de la pensée. Pour moi, je pars de l'idée simple que les femmes sont du côté de la vie, pour ce qui est de l'organisation sociale. Or, l'anthropologie traditionnelle, centrée sur une vision masculine de la société, nous fait toujours partir des motivations négatives des hommes mâles pour aboutir à l'organisation sociale. Les motivations positives des femmes à développer l'organisation sociale par le désir par leur désir d'intégrer les hommes dans une vie communautaire poussée, sont à mon sens plus vraisemblables que l'organisation sociale basée sur les seules émotions négatives de culpabilité et d'agression des hommes. Voilà, ce livre, donc, c'est une vision de l'anthropologie par une femme, Marta Moya. Ce livre s'appelle « La saumone », il va bientôt paraître au Mercure de France.
Ah, 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 ah.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 5,4 MHz. On continue en musique notre émission magazine.
وكمان لجان عشان عيون المعركة.
وكمان لجان عشان عيون المعركة.
سلام يا واد للست مع مع معركة.
سلام يا واد للست مع مع معركة.
كمان سلام لأهل بيت المعركة.
كمان سلام لأهل بيت المعركة.
سلام يا مان.
Qu'on entende parler que de la bataille.
Qu'on entende parler que de la bataille. Que tous les efforts soient mis au service de la bataille. Que tous les efforts soient mis au service de la bataille. Que des chants mélodieux exaltent la bataille. Que des chants mélodieux exaltent la bataille. Encore des comités pour les beaux yeux de la bataille. Encore des comités pour les beaux yeux de la bataille. Un coup de chapeau, les gars, pour Notre-Dame de la bataille. Un coup de chapeau, les gars, pour Notre-Dame de la bataille. Un coup de chapeau à ceux qui préparent la bataille. Un coup de chapeau à ceux qui préparent la bataille. Encore des emprunts du trésor pour la bataille. Encore des emprunts du trésor pour la bataille. Il faut que tout le monde participe à la bataille. Il faut que tout le monde participe à la bataille. Aucun être vivant ne pourra se soustraire à la bataille. Aucun être vivant ne pourra se soustraire à la bataille. Que la mort me prenne s'il n'a pas lieu la bataille. Que la mort te prenne s'il n'a pas lieu la bataille. Inéluctablement aura lieu la bataille. Inéluctablement aura lieu la bataille. Un coup de chapeau à l'inéluctabilité de la bataille. Un coup de chapeau à l'inéluctabilité de la bataille. Un discours capital va exposer le déroulement de la bataille. 20 discours capitaux ont exposé le déroulement de la bataille. Nous avons mobilisé 1 million de soldats pour la bataille. Vous avez mobilisé 1 million de soldats pour la bataille. Nous avons pétri du pain noir pour la bataille. Nous avons mangé du pain noir pour la bataille. Le peuple a faim, le peuple a froid pour la bataille. Le peuple a faim, le peuple a froid pour la bataille. Le peuple, le destin, le maire, la bataille. Tu nous fais chier, où est-elle cette bataille? Fermez vos gueules et criez en cœur, vive la bataille! Où est-elle cette bataille? Comment, police, arrêtez ces espions! Ne m'avez-vous pas entendu dire qu'on ne doit parler que de la bataille? Où est-elle cette bataille? Quelque toute bataille ne parle que de la bataille! Où est-elle cette bataille? Que toute la bataille ne bataille que de la bataille! Où est-elle cette bataille? Que la bataille de la bataille, pour la bataille, sur la bataille, la bataille, de la bataille, pour la bataille, de la bataille! Quelque toute bataille ne parle que de la bataille! Où est-elle cette bataille? Que toute la bataille, la bataille, que de la bataille! Que la bataille, de la bataille, la bataille, pour la bataille, la bataille, la bataille!
Vous venez d'entendre une chanson de Colette Magny. Eh bien, nous allons parler un petit peu plus de Colette Magny parce que nous avons mis la main sur un interview de Colette Magny qu'on a trouvé très intéressant. Et tout à l'heure, on vous fera entendre encore d'autres chansons de Colette Magny. Qui est-elle? Eh bien, c'est une femme qui est née en France, donc, en 1926, et qui a entamé une vie de chanteuse professionnelle en 1962. À l'âge de 36 ans, elle a quitté un emploi de secrétaire bilingue à l'OCDE pour un engagement de 8 jours. Depuis, elle mène une carrière engagée sans concession, que quelques-uns ou quelques-unes considèrent comme volontairement à l'écart. Que dit Colette Magny? Colette Magny dit « J'ai parlé de ce que j'ai vécu, de ce qui est venu à moi. Je suis une espèce de tuyau. On est censé témoigner de notre époque, nous les artistes. Avec la chanson « Ras la trompe », j'ai parlé de moi pour la première fois. Et quand certaines féministes m'ont accusée de ne pas traiter des problèmes de femmes, c'est faux. Et en plus, je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais au service du peuple. Quand choisissez-vous un texte de quelqu'un d'autre, par exemple des poèmes de grands auteurs français, et quand écrivez-vous les paroles de vos chansons? Colette Magny répond « Il s'agit souvent, je crois, de hasard. Actuellement, j'ai du mal à écrire, et on m'a demandé Artaud. C'est toujours par grande amitié, par amour, que je fais quelque chose. Quand je commence à écrire, on me répond immédiatement. C'est antipoétique. Et comme je suis très timide, cela m'impressionne et j'arrête. Antipoétique, c'est un critère en musique? C'est donc la question. Colette Magny, je ne sais pas. Je vais vous dire ce que je voulais faire. J'avais appelé ça d'abord disco-frisco-ménopause. Ah, mais quel terme affreux, m'a-t-on immédiatement objecté dans mon entourage. Mais en musique, il y a des quarts de pause, demi-pauses, des pauses. Là, c'est ménopause. Le mot sonne à peu près pareil, non? Alors, j'ai changé le titre qui est devenu « Le périphérique est malade, mais la cité reste entière ». Je voulais raconter sur scène, avec mouvement, documents projetés, éléments de mise en scène, ma vie de femme de 57 ans. C'est tout. On acceptait le début de mon spectacle en renaclant, mais ça n'allait plus du tout quand je parlais de mes dents. Tout le monde m'a dit « C'est impossible, tu ne peux pas faire ça ». Pourtant, ces ennuis-là existent. J'avais des dents superbes, je les ai perdues en 2 ans. J'en ai ri, même si je ne savais pas si je pourrais continuer à chanter. C'est vrai, c'est dramatique. Mais il faut bien rire de ce qui est dramatique. Je vais quand même le faire, bien que ce soit, paraît-il, vulgaire. En effet, je vais montrer mon cul, mais pas mon cul comme ça. Un cul artistique, transposé. J'ai une amie qui a fait des nus de moi. Je voulais les projeter, justement. Mon but était de me réconforter et de réconforter les grosses dames et de réconforter les vieilles dames. Et je voulais savoir aussi, avec mon cul, que l'artiste avait été primé au Québec. Avez-vous reçu une formation musicale ou vocale, Colette Magny? Je n'ai reçu aucune formation d'aucune sorte. Ma mère, pour le plaisir de mon père, a fait du chant classique. Et le matin, avec mon frère, elle nous disait « Alors, les enfants, quand on se réveille, il faut placer sa voix. » Ma mère m'a payé une seule leçon de chant. Comme elle trouvait que j'avais une bonne voix naturelle, je n'ai pas eu d'autres cours. Quelle épouvante, les vocalises, mais quelle discipline. Il paraît que j'aurais pu être une grande chanteuse d'opéra. Colette Magny, combien de concerts donnez-vous par an? Y a-t-il une moyenne? Oui, il y a une moyenne, qui est faible. Sur 20 ans, j'ai eu 3 années fastes. Avant ces 3 années fastes, j'en donnais 10 ou 12. Et ces 3 dernières années, j'en ai donné 5. Cette année, il y en aura 35, peut-être, et même plus. Mais grâce à quoi? Grâce au divertissement. J'en ai envie parce que j'ai un petit point de gaieté en moi. Mais, Colette Magny, qu'est-ce que cela signifie, financièrement parlant? Mes chansons politiques, plus une certaine exigence, ont fait que le travail s'est fait si rare qu'on allait me supprimer la sécurité sociale. C'est allé jusque-là. Je n'ai été déclarée professionnelle que depuis 3 ou 4 ans. Il faut gagner un peu moins de 20 000 francs par an en droit d'auteur, autrement vous êtes censé faire un autre métier. Autrement dit, vous êtes censé faire un autre métier. En 1981, il fallait que je prouve ma qualité d'auteur, parce que j'avais touché moins que la somme requise, et j'aurais perdu le droit à la sécurité sociale, dont j'ai eu peu besoin, sauf depuis l'âge de 50 ans, depuis la ménopause, justement. Colette Magny, vous avez raconté, à 8 ans et demi, j'ai eu un grave ennui qui a dû déterminer toute ma vie. J'étais violée par mon oncle, mais ce n'était pas violent physiquement, pas brutal, c'était fait gentiment. Seulement, après, c'est la tête qui a déconné. Colette Magny, violée, le terme est un peu fort, parce qu'il n'y a pas eu de violence. Mais ce qu'il a réussi à faire, cet homme, c'est que moi, je me sente coupable, comme si c'était moi qui l'avais violée. Si, je l'ai cru, puisqu'il m'a dit « Si tu ne viens pas avec moi, je le dirai à ton père. » Quand j'avais 10 ou 12 ans, il a été mis en prison. J'attendais fébrilement les réactions de ma famille. Et tout ce que j'ai entendu, c'était « Pauvre Marcel, personne ne se préoccupait de la petite fille. » Alors j'ai eu un choc. Et qu'est-ce que j'ai utilisé comme moyen de défense vis-à-vis des hommes? J'ai commencé à enfler. Occuper de l'espace était devenu mon obsession et une sorte de paravent. Halte là, qui vive, personne ne me touche. Et j'ai été déterminée dès l'âge de 16 ans. Pas d'amour pour moi, jamais de mariage. Les femmes peuvent avoir n'importe quoi, sauf être grosses. Une grosse dame, tout le monde en rigole. Ça me fait mal quand on juge quelqu'un sur son aspect physique. C'est pour ça que je suis antiraciste. Malgré tout, j'ai eu de la chance. J'ai été gratifiée tout au long de ma vie. À tous les poids, d'ailleurs, bizarrement, j'ai varié de 66 à 163 kilos, suivant les époques. C'est pourquoi, quand on me demande « qu'est-ce qui t'importe le plus dans la vie ?», je réponds toujours « la considération ». Question : pourriez-vous parler de votre collaboration avec Anne-Marie Fijal qui vous accompagne au piano ? Elle est admirable, cette Anne-Marie. Nous nous connaissons depuis très longtemps. C'est une concertiste qui fait aussi des musiques de scène et de films. Un jour, elle m'a dit « tiens, si tu veux, je t'accompagnerai. Je n'aurais jamais eu cette idée ». Et quand j'ai écrit « Visage village », elle m'a proposé un accompagnement pour piano seul. Elle a concocté une sorte de cantate. J'ai trouvé ça formidable. D'ailleurs, c'est injuste de parler uniquement de moi, car nous sommes deux. Voilà, c'était pour faire un petit peu connaissance avec Colette Magny. Cette interview est tiré d'un bulletin de l'AFI, l'agence Femmes d'information. C'est un petit bulletin très intéressant d'une agence de presse pour les femmes, faite par des femmes. On va écouter encore plusieurs chansons de Colette Magny et on va terminer ainsi l'émission de ce soir.
J'étais tout petit. Il était tellement petit qu'il avait été rejeté par ses parents pour cause de rachitine. Oh là là, pauvre petit bachiteur, il était petit. Il était tout petit. J'étais un pachyderme qui faisait pas le poids. Tellement petit pachyderme. Oh là là, il y avait que les bipèdes pour penser que c'était un pachyderme. Pauvre petit pachyderme. Il était trop petit pour les pachydermes, mais il était énorme pour les bipèdes. Oh, pachydermes, il était pas possible, trop petit. Pauvre petit pachyderme, que t'es trop petit. Petit, le pachyderme. Alors il était malheureux, le pachyderme. Il était trop malheureux, ce petit pachyderme-là. Toujours assis sur deux chaises, il était. Il était pas possible. Pauvre pachyderme. T'es trop petit. Petit, que c'était pas possible, petit pachyderme.
Je suis un tout petit pachyderme de sexe féminin. J'en ai gros sur le cœur. Ras la trompe, ras la trompe. Les gosses y sont heureux quand il pleut, après ils s'endorment. Moi j'en ai gros sur le cœur. Oh la trompe, oh la trompe. Celui qui a froid, il s'approche du feu. Mais moi, ma cheminée, elle fonctionne plus. Il y avait un arbre au milieu de la forêt, mais je ne l'ai pas vu. Râle la trompe, râle la trompe. Barrique sur deux poutres, c'était déjà dur à l'école. Et maintenant, je suis sur l'autre versant de la colline. Les purs et durs m'en ont tellement fait baver que j'ai cru un moment ne plus jamais avoir envie de chanter. Oh, la trompe. Chanteuse petit chat pétition, chanteuse petit chat galette soutien. Potiche, ça peut plus durer, potiche, ça peut plus durer. Ah, 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 la trompe. L'arbre préfère le calme. Et le vent continue de souffler. Feu, femme, objet, je suis en transit. Feu, femme, objet, je suis en transit. Ah, la trompe. Ah, la trompe. quel moment l'homme qui perd un par un ses cheveux peut-il être considéré comme chauve? Qui l'a dit, Lénine? Ouah, ouah, ouah. Ah, mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh, 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 mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh, 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 mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh, 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 mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Oh,
pour célébrer l'année de l'éléphant, Radio Cornac est content de vous présenter Coulette Mani. Il nous a fait l'honneur de s'exiler au paradis des gendarmes. Avec le Free Jazz Workshop, elle représente la France.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune. Je veux juste encore vous signaler que samedi soir, samedi 17, il y aura une retransmission dès 19h sur Radio Zone d'un débat avec Pascal Bruckner. Pascal Bruckner est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le sangle de l'homme blanc sur le thème du tiers-mondisme, culpabilité et haine de soi. Il s'agit donc d'un débat qui a eu lieu sur ce livre avec l'auteur à l'Institut du Développement, et ce débat vous sera retransmis samedi 17, dès 19h sur Radio Zone. Et la soirée sera animée tout à fait exceptionnellement par Radio Pleine Lune. Voilà. Mmh.